Radio Okapi. Le journal Jacques-Yves Molima.
Accident de circulation, un camion s'est renversé avec une cinquantaine de passagers et des marchandises dans la rivière Kalumengongo, dans les territoires de Mitwaba, dans le Haut-Katanga, c'était dimanche. Et par manque de moyens, jusqu'à présent, les recherches n'ont pas encore commencé. L'on apprend qu'il n'y aurait qu'un seul rescapé. Magasins, boutiques, voire les vendeurs du marché Lukuga Kalemi n'ont pas fonctionné ce mardi. Ces opérateurs dénoncent la multiplicité des taxes jugées d'après eux illégales. Nous allons joindre dans cette édition notre envoyé spécial sur place à Kalemi, Jean-Didier Ogoubani, dans ce journal. Notre invitée ce midi, c'est Madame Colette Ekia. Elle est vice-présidente du réseau national des associations des femmes rurales à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Elle nous parlera de la nécessité de combattre la malnutrition par une alimentation équilibrée à base de produits locaux. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Un accident de circulation s'est produit dimanche dernier dans les territoires de Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga. Un camion transportant des marchandises et une cinquantaine de passagers s'est renversé dans la rivière Kalumengongo. Jusqu'à présent, par manque de moyens, les recherches n'ont pas encore commencé. D'après certaines sources, il n'y aurait qu'un seul rescapé qui est dans un centre de santé de la place. Les détails avec Jean Gandou.
Plusieurs sources renseignent que ce camion venait de Manono à destination de Lubumbashi passant par le territoire de Mitwaba. Il avait à son bord une cinquantaine de passagers parmi lesquels les adultes et les enfants. Ce véhicule transportait aussi de marchandises. Arrivé au village Tambo, à 65 km de Mitwaba centre, aux environs de 23 heures, le chauffeur a raté de s'engager sur le pont et s'est renversé et le camion se trouve à plus de 100 mètres de profondeur. Jusqu'à présent, ce véhicule et tous les passagers sont sous l'eau. Information confirmée aussi par l'administrateur du territoire de Mitwaba. D'après ce dernier, faute des moyens, les recherches n'ont pas encore commencé. Il faut prendre langue avec les plongeurs afin de leur remettre le nécessaire pour qu'ils se mettent au travail. Entre-temps, les autorités territoriales attendent aussi d'une entreprise minière de la place un engin pour tirer les camions des eaux. Et aussi, elles déplorent le non-respect par les conducteurs des grands camions de la mesure portant interdiction de circuler la nuit sur cet axe jugé dangereux. Par rapport au manque de moyens, un rapport a été fait au gouvernement provincial du Haut-Katanga pour qu'une intervention urgente soit organisée afin d'entamer les recherches pour retrouver les personnes disparues. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans la province de Kwilu, plus de 165 décès des enfants en un mois et demi dus à l'anémie causée par le paludisme sont enregistrés dans la zone de santé de Mukedi en territoire de Gungu. Le médecin-chef de cette zone de santé qui l'a dit indique que la situation commence à être maîtrisée grâce à l'appui de la division provinciale de la santé. Cependant, Dr Abraham Mundedi souligne quelques difficultés pour faire face à cette situation, notamment l'insuffisance des intrants de prise en charge et le manque de moyens de transport pour atteindre les aires de santé touchées. Il sollicite l'intervention des autorités sanitaires. Il a été joint au téléphone par Irène Mboum.
À notre niveau, il y a les intrants avec lesquels nous luttons contre cette maladie. Mais en principe, nous devons être encore, on doit encore nous renforcer en ces intrants-là. Parce que vous savez, la situation est sortie de l'ordinaire. Maintenant, on doit vraiment être réapprovisionné pour qu'on fasse face. Pas seulement les intrants PNLP, comme les infirmières dans les tableaux d'anémie, si on peut encore nous renforcer avec les poches de sang pour les transfusions et autres marqueurs par rapport à la transfusion. Aussi, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est autour des déplacements. La zone n'a pas les moyens de déplacement. C'est avec les transports, les motos et les autres moyens de déplacement que nous sollicitons pour atteindre ces aides de santé qui sont touchées. Il n'y a pas de moyens de déplacement là-dessus. Et surtout la grève qui amplifie la situation, la plupart de ces décès sont enregistrés dans les ménages et dans les structures privées. Avec la pauvreté de la population, c'est incroyable. Avec l'accompagnement de la DPS, nous commençons déjà à maîtriser cette maladie.
Et puis l'ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies séjourne au Sud Kivu depuis hier lundi. Sarah Zaid est venue en tant que conseillère spéciale du Programme Alimentaire Mondial pour la santé de la mère, de l'enfant et de la nutrition. C'est à ce titre qu'elle visite aux côtés du représentant du PAM en RDC, quelques structures qui bénéficient des actions de l'agence onusienne dans le Sud Kivu. Les détails avec Cynthia Bachizi.
Le Sud Kivu est la province congolaise avec le taux le plus élevé des enfants malnutris de moins de 5 ans. Cela dans un contexte sécuritaire fragile. Pour lutter donc efficacement contre ce fléau, la princesse Sarah insiste sur le fait que la malnutrition n'est pas le seul apanage du PAM. Nous avons tous un rôle à jouer pour nous assurer que toutes les familles sont bien nourries. Il faut être bien nourri pour être en bonne santé. Les femmes enceintes doivent être protégées et bien nourries. Nous avons donc besoin d'un formation de plaidoyer pour que les femmes et filles sachent à qui s'adresser lorsqu'elles sont dans le besoin et surtout quels sont leurs droits. Outre l'hôpital de Panzi, le PAM fournit aussi une ration alimentaire aux survivants des violences sexuelles hébergées à la maison Dorcas, partenaire de la fondation Panzi. C'est un lieu de transit où ces victimes apprennent un métier en vue de les préparer à se réinsérer dans la vie. Mais une prise en charge réussie va de pair avec une bonne sécurité alimentaire. Voilà pourquoi l'agence onusienne veut élargir cet appui en y intégrant des activités de résilience, ce qui favorisera l'autonomisation. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle pour la sous-division de l'épesté Diapanda dans les territoires des Loubéros. Nous sommes dans le Nord Kivu. Là, les enseignants ont repris les cours. Cette reprise est consécutive à la levée momentanée de la grève par l'intersyndicale des enseignants de cette sous-division à l'issue d'une assemblée générale tenue le week-end dernier. La société civile locale qui salue cette bonne foi des enseignants interpelle le gouvernement à prendre ses responsabilités en répondant aux revendications des grévistes. Grâce Samzati.
Selon Kasereka Kassia Augustin, le secrétaire permanent de la Confédération démocratique du travail CDT en sous-division de Ndiapanda, cette mesure d'élever momentanément la grève a été prise non seulement pour sauver l'éducation des enfants dans cette zone confrontée à plusieurs problèmes, mais aussi parce que certaines des revendications des enseignants ont été transmises aux autorités compétentes. Il cite notamment l'omission de certains enseignants par la banque qui les paye, mais également le fait de parcourir beaucoup de kilomètres pour atteindre la dite banque. Pour d'autres revendications, comme le paiement des nouvelles unités, les syndicalistes attendent la réponse du gouvernement tout en occupant les élèves. Cette reprise des cours est confirmée par les sous-provèdes de Ndiapanda, Mavimba Ngororo Kisonya. Pour sa part, la société civile dans la région qui dit avoir constaté cette reprise des cours parle d'un ouf de soulagement pour les parents. Mumbere Kaichupa, président de cette structure citoyenne, explique.
Cette reprise des cours, c'est vraiment un soulagement pour toute la communauté et c'est vraiment un soulagement pour les parents. On trouvait déjà les enfants qui étaient déjà dans des sites miniers pour les activités, des commerces pour les activités minières. Certains commençaient à s'adonner à la drogue, à la sexualité, même avec des risques d'intégrer les groupes armés.
Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
En Ituri, le village Pakenge dans le territoire de Mahagi se vide de sa population depuis hier lundi. Ce après l'incursion des miliciens de la Codeco dans cette entité, affirme le président de la société civile de ce territoire. Sur place, ces miliciens ont blessé une personne à l'arme blanche et incendié plusieurs maisons. Toujours selon la même source, durant la nuit, certains éléments de ce groupe armé ont récolté des produits des champs appartenant aux autochtones. Jusqu'à ce matin, ces miliciens étaient encore présents dans la zone, affirme des témoins Jean-Claude Loki.
Plusieurs témoins affirment que ces miliciens ont pénétré dans le village de Pakenge dans la chefferie du Côte peu avant midi hier lundi, ce qui a plongé la population dans la panique. Certains ont quitté le milieu pour se réfugier à Nyekese, un village proche. D'autres ont pris la direction du centre commercial de Ndrele, laissant tous les biens, indique David Mokili, un activiste des droits de l'homme dans la région. Durant cette incursion, ces miliciens ont blessé à la machette un habitant et brûlé plusieurs maisons. Le président de la société civile de ce territoire, Innocent Abekoudou, ajoute que 4 motos ont été emportées par ces miliciens qui s'en prennent également aux produits champêtres de la population. Jusqu'à cet avant-midi, plusieurs personnes, notamment des femmes et des enfants, bagages à la main ou sur la tête, continuaient à vider la zone, affirme une source locale. Sur la société civile, les forces loyalistes tentent de repousser l'ennemi. Information confirmée par l'armée qui ajoute que ces malfrats sont en quête de servir à la suite de la traque des forces loyalistes contre eux dans plusieurs entités du territoire de Djougou. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
On retourne au Nord Kivu, mettre ensemble une stratégie commune pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés déchirées par les conflits armés dans la province. C'est le thème d'un atelier ouvert ce mardi à Goma. Il réunit une dizaine de représentants des confessions religieuses venus de l'église catholique, protestante, kimbanguiste, l'église de réveil et l'islam. L'objectif est d'accompagner les efforts du gouvernement afin d'améliorer la protection des femmes et des enfants en situation d'urgence dans les zones affectées par les conflits armés en cette période de l'état de siège. C'est comme le dit ici l'évêque principal de la synergie interconfessionnelle au Nord Kivu, Joël Amourani, s'est confié à Gabriel Wamenya.
Notre stratégie, premièrement, consiste à ramener ou à restaurer l'unité. Vous savez que dans un combat, vous pouvez avoir toutes les armes possibles, mais si vous n'êtes pas unis, il n'y aura pas vraiment de victoire. Et c'est pourquoi nous, en tant que confessions religieuses, nous voulons d'abord ramener toutes les communautés du Nord Kivu à se mettre d'accord pour marcher, parce que la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si elles ne se mettent pas d'accord. Il faut que toutes les communautés du Nord Kivu se mettent d'accord pour soutenir la grande vision de notre chef de l'État afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire.
Comment vous allez le faire concrètement sur le terrain?
Sur le terrain, vous savez, nous n'avons pas d'armes physiques comme la branche militaire. Nous, en tant que religieux, notre arme, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous allons utiliser la parole pour ramener cet effet, même si elle a disparu pendant un siècle, mais avec la puissance de la parole, la paix reviendra.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, grève des commerçants aujourd'hui, mardi, dans la ville de Kalemie. Grossistes d'État et quelques vendeurs du marché Lukuga ont décidé de ne pas ouvrir leurs boutiques. Ils dénoncent la multiplicité des taxes jugées, d'après eux, illégales. Selon eux, la mairie leur impose des taxes. Et la province demande aussi d'autres frais indépendamment de ce qu'ils paient à la mairie. Il y a aussi les services de l'État qui exigent d'autres taxes, dont l'agriculture, la culture, l'OCC, l'hygiène aux frontières et la DGDA. Jean-Didier Ogobani nous décrit la situation depuis la ville de Kalemie.
Porte fermée avec cadenas, étalage vide, policiers déployés, c'est l'image que présente la place Kisebwe, carrefour des activités de la ville de Kalemie.
Moi, je suis plutôt dans le petit commerce. Je vends sur les étalages. Les grands commerçants nous ont demandé de les soutenir.
Même situation à Kalungolelo et les longs du pont Lukuga. Les activités commerciales ne sont pas organisées. Seules les pharmacies sont ouvertes et les vendeurs de produits alimentaires sont autorisés à exercer. Au marché Lukuga, les étalages sont vides et sont occupés par quelques curieux en lieu et place des articles à vendre. Commerçants se disent fatigués de multiples taxes imposées illégalement.
Il y a beaucoup de taxes. Il y a des taxes de l'énergie, de la culture et art, et il y en a d'autres dont on ne connaît même pas l'origine. C'est pourquoi nous interpellons le gouvernement. Nous sommes fatigués.
Ce mouvement est soutenu aussi par les consommateurs, dont les mouvements citoyens.
Les commerçants payent les frais des laboratoires de l'OCC, mais demandez où est les laboratoires de l'OCC. Au Tanganyika, il n'y en a pas. Et l'OCC encore avec les frais de redressement.
Le ministre de l'Intérieur, qui assure l'intérim du gouverneur en mission, a réuni d'urgence la FEC, la mairie, l'armée, les services de renseignement et d'autres coûts sociaux pour tenter de décanter la situation.
Au Kassa-Oriental, hausse de prix du litre de carburant en Bujimaï. Le litre d'essence qui se vendait la semaine dernière à 3500 Congolais coûte actuellement 4000 ou 4300. Conséquence, les prix de plusieurs trajets a doublé. À la Fédération des entreprises du Congo, FEC, on parle de la note circulaire du ministre interdisant les transports dans les bidons ou fûts des produits pétroliers, une des pratiques la plus utilisée par les importateurs du Kassai oriental. Des explications avec Esther Ndalafina.
Il est actuellement difficile d'effectuer une course en ville, même sur une courte distance, en payant le tarif de la semaine dernière. Le prix de tous les trajets ont doublé, comme témoigne cette ménagère Pelagique Soumboulé.
On souffre pour le transport, même sur une courte distance. On demande 1000, 1500 ou 2000 francs. Ils disent qu'il y a hausse de prix de carburant. Ensuite, ils payent beaucoup d'argent pour les documents de bord.
Les motocyclistes affirment qu'ils veulent à leur tour faire face à la hausse de prix du litre de carburant.
C'était à 2900 au niveau de Shell. Maintenant, c'est 4200 francs.
Dominique Ilunga, directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, évoque la note circulaire du ministre des Hydrocarbures.
La SNCC ne transporte pas de produits pétroliers suite à la mesure du ministre national interdisant le transport de produits pétroliers dans des fûts et bidons. La zone du Kassai, pour le moment, n'était pas concernée.
Signalons que le nombre des camions-citernes habilités à assurer les transports de carburant de Monedito en Mbujimayi sont moins nombreux, une situation qui risque d'occasionner les frais de pénalité à payer régulièrement à la SNCC par les importateurs de produits pétroliers suite au chômage des wagons-citernes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et on revient ici à Kinshasa, début ce mardi des travaux des états généraux de la lutte contre la corruption en RDC à l'hôtel Kin Plaza, organisé par le ministère de la Justice et des Gardes des Sceaux jusqu'au 23 octobre prochain. L'objectif global de ces travaux est de poser un diagnostic complet sur l'état des lieux de la lutte contre la corruption. Jeff Ngoyi.
Ce forum vise également à créer un consensus sur les actions prioritaires à mener et les réformes à entreprendre pour parvenir à une diminution sensible et durable de la corruption en RDC. Il doit aussi définir les modalités de mise en œuvre ainsi que les mécanismes de suivi des dites actions prioritaires. Organisé dans le cadre de l'application du projet d'appui à la lutte contre la corruption en RDC Congo, grâce à l'appui technique et financier du PNUD et du Royaume de Suède, ces assises réunissent 150 participants. Ils sont issus des institutions publiques, du secteur privé et des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers. Durant 5 jours, des questions successivement à aborder se rapportent à la prévention de la corruption, l'incrimination, détention et répression de la corruption, la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption, le recouvrement des avoirs issus de la corruption, la gestion de l'information relative à la lutte contre ces fléaux ainsi que sa gouvernance.
Actualité internationale.
Au Burundi, la vaccination contre le Covid-19 n'a pas encore commencé. Après avoir minimisé pendant plusieurs mois la gravité de la pandémie, le pays a finalement accepté les dons de 500 000 doses de vaccins chinois Sinopharm. Le premier lot a été reçu jeudi dernier. La vaccination devrait débuter la semaine prochaine pour certaines catégories de personnes, mais les Burundais restent mitigés à l'égard des vaccins.
L'invité.
Notre invitée dans cette édition du journal, c'est Madame Colette Ekia, vice-présidente du réseau national des associations de femmes rurales à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Elle nous parle de la nécessité de combattre la malnutrition par une alimentation équilibrée à base de produits locaux. Elle s'entretient avec Paul-Richard Malengela.
Madame Colette Ekia, le 15 c'était la journée dédiée aux femmes rurales, le 16 la journée mondiale de l'alimentation. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cette cérémonie?
Oui, en tout cas en tant que réseau des associations des femmes rurales, ces deux journées-là ne peuvent pas passer inaperçues. Par rapport à la journée internationale dédiée à la femme rurale, comme nous sommes là et que nous sommes une grande association des femmes rurales, nous ne pouvons que la célébrer. Et nous avons passé comme le thème de l'année, demande à la femme rurale de cultiver une bonne nourriture pour les enfants. Nous avons pensé à célébrer ça à la journée internationale de l'alimentation pour que ça reflète un peu cette réalité-là. Et cette célébration a consisté à recueillir les produits de nos champs, de notre élevage et préparer pour faire une démonstration culinaire. Et puis, nous avons aussi invité les enfants malnutris pour enseigner à leurs parents comment ils peuvent les prendre en charge, quelle nourriture elles peuvent donner à ces enfants-là.
Mais ce qui nous a frappé, c'est que parmi les invités d'honneur, nous avons vu qu'il y avait des orphelins, les enfants qui sont abandonnés. Pourquoi avez-vous pensé à les associer à cette célébration?
Oui, nous avons pensé à les inviter parce que la journée d'ailleurs, c'est la journée de l'alimentation. Et qui dit alimentation, nous voulons que pour cette alimentation, c'est pour que la personne doit être en bonne santé. Et nous avons trouvé que ces enfants-là n'étaient pas en bonne santé. On a eu à repérer quelques enfants qu'on a trouvé qui n'étaient pas en bonne santé. C'est ainsi qu'on les a invités pour instruire à leurs parents comment ils doivent les prendre en charge, quelle nourriture ils doivent donner à leurs enfants. Voilà pourquoi on les a invités et on leur a enseigné comment nourrir leurs enfants en utilisant les 4 étoiles de l'alimentation. Les enfants doivent manger les aliments de base, de renforcement, comme les chikwang, les bananes, les riz. Et puis, ils doivent manger des légumes, léguminoses et les aliments à protéines animales, comme poisson, et viande, les fruits ne peuvent pas aussi manquer. C'est ce que nous avons enseigné aujourd'hui à ces parents-là. Voilà, on a pensé à eux parce qu'on a trouvé que ces enfants n'étaient pas vraiment en bonne santé et que leurs parents devaient avoir connaissance de ce que nous, on a.
Il y a un paradoxe que nous sommes en train de vivre dans notre province de l'Équateur. Province à vocation agricole, mais comment expliquer qu'il y a aussi des cas assez élevés de malnutrition?
Paradoxe, oui, on peut le dire comme ça. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a invité les parents de ces enfants-là malnutris. Parce que c'est une province à vocation agricole. Il y a à manger, mais c'est question seulement que les parents sachent au moins comment nourrir leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous importe, ça vient des Kinshasa, on appelle ça des goûts, des kips, des onza, tout ça là. Un parent qui prépare par exemple des légumes, mais ces histoires-là de la coloration pensent que les enfants ont bien mangé. Or, ce n'est pas ça le cas. C'est ainsi qu'on a invité ses parents et je crois que ses parents ont bien capitalisé les enseignements d'aujourd'hui et ils vont leur mettre en pratique.
Madame, pour terminer, quel est le message particulier que vous adressez à tous les parents, malgré toutes les potentialités alimentaires que nous avons, mais n'arrivent pas à bien nourrir leurs enfants? Quel est le message particulier que vous adressez et aux femmes rurales et à la population en général en ce qui concerne l'alimentation?
Le message que je peux passer à toutes les femmes, que ce soit les femmes rurales et toute autre femme par rapport à l'alimentation, c'est d'éviter de consommer des choses qui sont surnaturelles, si je peux dire. C'est-à-dire de consommer naturel.
Il faut consommer bio.
Oui, il faut consommer bio, c'est ça. Il faut consommer bio et que chaque parent, parce que comme si je me réfère toujours à notre terme de l'année, c'est-à-dire les femmes cultivent une bonne nourriture pour toutes et pour tous. C'est-à-dire dans chaque parcelle, dans chaque ménage, on ne peut pas manquer un jardin ou un petit élevage pour nourrir les enfants. C'est-à-dire le message que je peux passer à tous les parents de la province de l'Équateur et de la ville de Mbandaka en particulier.
Comme de la RDC.
Et de la RDC, oui, de la RDC, que les parents, c'est-à-dire dans chaque ménage, on ne peut pas manquer un petit élevage, on ne peut pas manquer un petit jardin pour nourrir sa famille bio, comme nous disons.
Madame Colette Ekia, vice-présidente du RENAFER Équateur, merci.
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.